J'aimerais parler sur le serpent d'airain dans Nombre, chapitre 21, et à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Voilà, c'est un passage bien connu de l'Ancien Testament. Et en fait, Jésus va utiliser cette histoire vraie qui est arrivée au peuple d'Israël pour parler du salut du monde et montrer combien ce serpent d'airain est une image de la croix. Et pour cela, il faut aller dans l'évangile de Jean. Vous connaissez bien ce passage, c'est la rencontre de Jésus et Nicodème. C'est un des passages les plus connus de la parole de Dieu. Et à un moment donné, il explique à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ce qu'on vient de lire, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Tout de suite, il fait le parallèle donc entre ce récit que nous avons lu. Le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Il va être élevé comme le serpent d'airain a été élevé du temps de Moïse. Il faut que Jésus, le Fils de l'homme, soit élevé sur, ce ne sera pas une perche, mais ce sera sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il relie cette histoire de l'Ancien Testament avec la croix et surtout la foi qui permet le salut. Donc vous avez vraiment un parallèle dans Jean chapitre 3, donc fait écho à Nombre 21, parce que c'est cet événement que Jésus mentionne et nous allons voir spirituellement toutes ces implications, puisque si on retourne un petit peu dans le passé, le peuple d'Israël avait été esclave pendant 430 ans en Égypte, et ils avaient vraiment vu la main puissante de Dieu à l'œuvre. Ils avaient vu les plaies, ils ont vu comment Moïse, ce simple berger, âgé de 80 ans quand même, c'est un âge honorable, mais quand même, voilà, un certain âge, plus de la prime jeunesse. Il a tenu tête à Pharaon, et au nom de l'Éternel, il a fait sortir le peuple. Et puis, ils ont vu aussi comment, sous la conduite de Moïse, ils ont traversé tous ces déserts pour arriver jusqu'aux plaines de Moab. En fait, là, dans Nombre 21, on arrive au moment où ils sont prêts à rentrer dans Canaan. Donc, on arrive à la fin du parcours. C'est la dernière ligne droite. Déjà, même Marie et Aaron sont morts. Il ne reste plus que Moïse. Vous savez que Moïse va même mourir avant d'entrer dans le pays promis. Donc, on est vraiment juste avant qu'ils entrent. Mais ça n'empêche pas. Après ce long parcours, on a fait donc 40 années dans le désert. Ça n'empêche pas le peuple qui a vu la main de Dieu à plusieurs reprises de pécher contre Dieu. C'est le verset 5. Le peuple s'impatienta en route, fin du verset 4. Il parla contre Dieu et il parla contre Moïse. Avec tout ce qu'ils ont vu sur la main de Dieu, avec tout ce qu'ils ont vu par Moïse, ils ont encore trouvé l'occasion de pécher contre Dieu. Ils ont quand même traversé la mer Rouge, ils ont vu les miracles, ils ont vu les eaux amères devenir saines, Ils ont vu les combats contre les Amalécites où Moïse levait les mains et ils étaient vainqueurs. Il y avait Aaron et Hur de chaque côté qui tenaient les mains levées et le peuple prenait la victoire. Ils ont vu des miracles sur miracles. Et pourtant, voyez le cœur de l'homme. Le texte dit qu'il s'impatientait. Alors, avec tout ce qu'ils avaient vécu, ils pouvaient encore patienter un petit peu, mais non, ils s'impatientaient. Et c'est ça le péché. C'est que le cœur de l'homme est dur. Jacques chapitre 5, verset 7. Souvent, nous sommes impatients et nous ne savons pas attendre le temps de Dieu et nous péchons avant le temps de Dieu. Vous imaginez, ils sont sur le point d'entrer dans le pays promis. Ils ont fait 99% du parcours et là, sur la dernière ligne droite, ils trébuchent. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Quand on est impatient, on ne manque pas de péché. On pêche par notre langue, on pêche par nos pensées, on pêche par notre comportement. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Voilà. Il y a un temps d'attente. Et nous n'aimons pas attendre, mais Dieu va nous apprendre à attendre et à être patient. Donc ne nous impatientons pas. Par exemple, le laboureur, quand il sème son blé, par exemple, il sait très bien qu'il ne va pas récolter le lendemain. Il sait très bien qu'il va y avoir un processus sous la terre de germination. Ça va être long. Ça va être plusieurs mois. Et il le sait parce que c'est la nature. Eh bien, nous devons apprendre à connaître le timing de Dieu, parce que si nous sommes à contre-temps avec Dieu, comme le peuple ici qui s'impatienta, ça veut dire que s'il s'impatiente, c'est qu'il ne s'est pas calé sur le timing de Dieu. Et quand nous nous impatientons, quand nous trouvons que ça ne va pas assez vite, nous trouvons que Dieu n'a pas répondu, nous nous plaignons de la situation parce que nous disons que Dieu tarde ou que Jésus est arrivé trop tard ou que les choses ne vont pas assez vite. En fait, c'est que nous n'avons pas calé notre vie par rapport à ce que Dieu nous demande. Et ainsi, nous allons être frustrés, nous allons être malheureux. Alors le peuple, quand on est impatient, que les choses ne se passent pas comme on veut ou pas assez vite, on va commencer à parler contre Dieu. Il parle contre Dieu et contre Moïse. Beaucoup, beaucoup de personnes encore aujourd'hui parlent contre Dieu à tort et à travers, parlent contre les serviteurs de Dieu, pareil. L'impact des paroles est tellement puissant, car la parole est à double tranchant. Autant par nos paroles nous pouvons bénir, autant par nos paroles nous pouvons maudire. Proverbes chapitre 12, verset 18. Autant par nos paroles nous allons apporter la paix et la guérison. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, là c'est le côté négatif, mais la langue des sages apporte la guérison, ça c'est le côté positif. On pourrait dire la langue est à double tranchant. Vous pouvez bénir avec la même langue et vous pouvez maudire avec la même langue. Alors, soit vous apportez paix et guérison, comme les sages, soit vous apportez souffrance et blessure, comme les insensés. C'est comme un feu, c'est comme un venin d'aspic. C'est triste de voir cette situation parce que le peuple est là, prêt à rentrer dans les promesses de Dieu. Il n'est pas loin. Ils ont quand même, quand on analyse, ils avaient fait 430 ans d'esclavage. Là, ça fait 40 ans de liberté. Bien sûr, ils ont traîné dans le désert à cause de leur désobéissance, mais quand même, ils ne sont plus esclaves en Égypte. Et voyez ce qu'ils reprochent encore à Dieu et à Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Est-ce que vous savez de quoi il parle quand il parle de cette misérable nourriture? La manne de Dieu. C'est le bon pain de Dieu. Ils sont capables de parler de la manne de Dieu comme une misérable nourriture. Quand on parle comme ça, ça veut dire que notre cœur, il n'est plus du tout en harmonie avec la pensée de Dieu. Ils ont laissé des mauvaises pensées s'infiltrer. Ils ne voient plus les bienfaits de Dieu. Ils ne voient plus les grâces de Dieu. La grâce est là, c'est-à-dire le pain de Dieu se renouvelle chaque jour. Il y a les cailles, il y a la manne, il y a tout ce qu'il faut, ils sont bénis. Ils ne voient plus la main de Dieu, ils ne voient plus la grâce de Dieu. C'est terrible d'être devenus des croyants aveugles. Il y a un chant qu'on prend parfois qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. » Il nous faut les mettre devant nos yeux et les regarder. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand on devient aveugle, on ne voit plus les grâces de Dieu. On ne les met pas devant nos yeux. Et puis on dit « C'est une misérable nourriture. Mon âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » C'est la parole de Dieu. Donc là, on est à côté. Le peuple ne voit plus le pain. Il ne voit plus la manne. Il ne réalise plus l'importance du pain de Dieu pour son âme. Jésus dit dans Jean 6, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Est-ce que ce soir, nous pouvons voir encore le pain de Dieu qui est Jésus-Christ ? Parce que si nous ne le voyons plus, c'est que notre vision, comme le peuple ici, est abaissée. Nous ne voyons plus qu'une misérable nourriture, nous ne voyons plus le pain de Dieu. Le peuple ne voit plus l'eau. Il y a un texte qui dit dans 1 Corinthiens 10 que tous ont bu au même breuvage spirituel, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et c'est précisé que ce rocher, donc en fait, ils avaient de l'eau qui était renouvelée tous les jours, et ce rocher qui pourvoyait à l'eau, c'était Christ. Et là, quand ils se plaignent, ils disent « il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau », ce n'est pas vrai. Il y avait du pain, c'est la manne, il y avait de l'eau, c'était Christ, ce rocher qui les suivait chaque jour spirituellement, c'était Christ et le peuple est devenu aveugle. Il est devenu sans intelligence, il est devenu un petit peu comme Paul dit que le diable aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient plus briller la splendeur de la gloire de l'Évangile. C'est ce qui est arrivé au peuple ici. Le peuple a commis un grave péché. Il a parlé contre Dieu d'abord et ensuite il a méprisé les dons de Dieu. Voilà comment il est. Et c'est bien malheureux, c'est bien triste, une accumulation de péchés. Alors, comment on en arrive là ? Eh bien, c'est par la négligence, parce qu'on laisse notre bouche parler à tort et à travers, c'est par nos mauvaises pensées. Beaucoup de chrétiens veulent bien une vie victorieuse, oui, mais qui veut la discipline ? Qui veut être repris ? Qui veut changer ses paroles ? Qui veut changer ses pensées ? Ça, c'est notre travail de chaque jour, c'est la discipline du chrétien. Nous voyons que le peuple, en fait, n'a pas persévéré dans la discipline spirituelle. Il a laissé les mauvaises pensées dominer. Et si on ne s'applique pas à mettre notre vie vraiment en ordre, tôt ou tard, ça va faire des dégâts. Par exemple, David, il a laissé des petits péchés, des petites pensées un peu vaines rentrer dans son esprit. Puis il a été... attiré par cette femme Bathsheba, il a commis l'adultère, il a péché contre Dieu par des négligences. Voyez la différence entre David, les négligences, petites négligences, mais qui aboutissent à un grand péché, et Joseph qui est dans un cas de figure un peu similaire où il est tenté à un moment donné d'aller avec la femme de Potiphar. Lui, il prend une autre attitude et il dit non, et il résiste parce que en fait, il avait une discipline, il avait... son esprit focalisé sur Dieu, et il a dit non, je préfère fuir. Il a laissé son vêtement. Donc cette discipline, en fait, ça doit être celle du chrétien qui ne laisse pas les petites choses, les petites négligences, en fait, s'empiler pour aboutir à des péchés, un petit peu comme ici, le peuple s'impatiente, il parle contre Dieu, contre Moïse, tout ça, c'est une accumulation. On arrive au verset 6. Toujours dans ce texte des Nombres, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et là, c'est la sanction de Dieu. C'est le deuxième point, la sanction de Dieu, parce que les serpents brûlants, en réalité, ce sont des serpents venimeux qui pouvaient produire la mort. Un petit peu comme aujourd'hui. On sait par exemple qu'il y a des serpents comme le cobra royal qui est capable, avec son venin, de tuer un éléphant. C'est très puissant. C'est un venin qui produit la mort. Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ces serpents, c'est une image du salaire du péché. On a péché, on a parlé à tort et à travers contre Dieu, contre le serviteur de Dieu, on a méprisé les grâces comme le pain, comme l'eau, Frères et sœurs, il ne faut pas prendre à la légère le venin du péché. Le venin du péché nous a tous touchés. On est tous pécheurs de nature. On a tous été contaminés. À notre naissance, on a été mordus par le serpent du péché. On a tous contracté le venin. Et vous savez, la seule chose qu'il faut faire quand on a été piqué par un serpent venimeux, c'est de trouver l'antidote, d'aller à l'hôpital et de prendre l'antidote. C'est ce que font ceux qui sont touchés par le venin. Et s'ils font assez vite, ils peuvent être sauvés. Eh bien, nous connaissons l'antidote parce que spirituellement, on a tous été contaminés par le venin du péché. Mais l'antidote, Moïse en parle avec ce fameux serpent d'airain. Il dit « Quiconque regardera le serpent d'airain, c'est l'antidote. » Parce que celui qui regardera là, le venin ne le détruira pas. Il ne mourra pas à cause du venin de ces serpents. Pour nous, c'est le venin du péché. Alors, je prends l'exemple dans 1 Samuel 7, 3 pour vous montrer que ce que vit le peuple ici dans Nombre, ça s'est reproduit en fait et ça se même reproduit encore même dans l'Église. 1 Samuel 7, 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, c'est donc un peuple de croyants, le peuple de Dieu, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés et dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Vous voyez que ce peuple qui était croyant, qui aimait Dieu, il avait quand même laissé par les petits compromis finalement des dieux étrangers, des Astartés, son cœur s'était éloigné de Dieu et maintenant les Philistins dominaient. Le cœur donc était partagé, il était éloigné de Dieu. Alors vous allez dire, oui mais ça c'était dans les Nombres, dans 1 Samuel c'est toujours l'Ancien Testament. Et je disais, c'est vrai aussi, ça s'est reproduit dans l'Église. Et si vous regardez dans les Actes des Apôtres, malheureusement on a des croyants qui ont négligé les bonnes grâces de Dieu, c'est Ananias et Saphira, par exemple, qui ont méprisé la parole du Seigneur et ils ont menti. Et ils ont été retranchés, sanctionnés par Dieu. Donc, les temps que vivent ici le peuple, un peu plus tard du temps de Samuel, dans l'Église, nous voyons toujours le même phénomène, c'est le péché. C'est ce fameux serpent, ces serpents brûlants qui communiquent le venin de la mort. Et si il n'y a pas une bonne réaction, et il n'y en a qu'une en fait, si vous regardez bien ce texte, il n'y a qu'une réaction qui produit la vie, c'est au verset 7, c'est le troisième point, c'est la repentance. Verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Là, c'est la repentance, c'est le tournant dans l'histoire. Et je dirais pour nous ce soir, c'est l'étape incontournable, c'est l'étape sans laquelle on ne peut pas être pardonné, parce que nous croyons tous que Dieu veut pardonner, mais il ne fait qu'à certaines conditions. Dieu ne pardonne pas, je dirais, de manière unilatérale. Il pardonne, oui, dans la mesure où nous sommes repentants, où nous demandons pardon, où nous nous tournons vers Dieu humblement, pour dire « j'ai péché contre toi ». Et c'est ça qui décoince la situation. Si le peuple n'avait pas été jusqu'au verset 7, c'est certain qu'ils seraient morts dans leur péché. Mais le verset 7, c'est le tournant de la repentance. Le cœur est touché, ils demandent pardon, ils reconnaissent qu'ils ont mal agi, et c'est ça que Dieu aime, et c'est ça que Dieu veut, c'est un cœur sincère, un cœur repentant, c'est ce qui plaît à Dieu. Psaume 51, verset 19, on parlait tout à l'heure de l'adultère de David. Psaume 51, c'est la confession du péché de David. Psaume 51, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est de quoi il parle, c'est un psaume de repentance. Il demande pardon à travers ce psaume. Un petit peu comme le peuple ici dit, j'ai péché. Le peuple donc confesse à Dieu son péché, il s'humilie devant Dieu, il demande pardon pour ses fautes, il regrette d'avoir parlé à tort et à travers de l'Aman, des choses saintes. L'eau, le rocher spirituel qui était Christ. Ils ont méprisé les choses saintes. Ils ont pris au sérieux la chose et la personne qu'ils avaient critiquée, c'est-à-dire Moïse, c'est vers Moïse qu'ils vont demander pardon. Donc ils se repentent, à la fois devant Dieu et devant Moïse qu'ils ont critiqué. Et c'est Moïse lui-même qui les pardonne et qui prie pour eux. Et on avait déjà vu cela avec Marie il y a quelque temps, quand Marie a parlé contre Moïse. Elle a été sanctionnée par la lèpre, mais c'est Moïse qu'elle avait critiqué qui a prié pour elle pour qu'elle soit guérie. Et la personne qu'on a critiquée, qu'on a jugée, c'est celle qui pour nous est une source de bénédiction. Et souvent nous passons à côté parce que nous sommes dans le péché. Quand on est dans le péché, on n'est pas assez humble. Vous voyez, le peuple, tant qu'il était jusqu'au verset 5, il était tellement rebelle, tellement orgueilleux, qu'il n'aurait jamais été vers Moïse. Mais maintenant, il est humilié, il est repentant, il vient vers Moïse, et à ce moment-là, c'est Moïse qui prie pour eux. Comme quoi, Dieu sait comment nous humilier et nous ramener à lui. Mais Moïse, c'est un véritable croyant qui aime Dieu, et je crois que ça doit être notre attitude aussi en tant que chrétien, c'est-à-dire de pardonner. Quelqu'un vous a fait du mal, il a parlé mal de vous, il vous a humilié, peut-être il vous a calomnié, mais s'il est repris par Dieu qui vient vous demander pardon, eh bien, on doit lui pardonner. En tant que chrétien, on doit lui pardonner, comme Moïse a pardonné au peuple. On doit lui pardonner de tout notre cœur, de sorte qu'on va prier pour la personne pour qu'elle soit bénie. Et ça montre qu'on est vraiment libre. Moïse n'a pas gardé rancune, il n'a pas jugé le peuple en disant « c'est votre faute, vous méritez bien les serpents brûlants, vous n'aviez pas à parler comme ça de Dieu, de moi ». Eh bien, en fait, Moïse exprime un réel pardon. Et le quatrième point, c'est donc la solution divine au verset 8 et 9. C'est Dieu qui donne la solution parce que, bien sûr, il y a la prière de Moïse, mais il y a le miracle de Dieu. Et le miracle de Dieu, il va venir par le serpent d'airain, le serpent que Dieu demande à Moïse de fabriquer. Le péché, en fait, qu'est-ce que veut montrer ce texte ? Il veut montrer que le péché est tellement grave qu'il produit la mort. Quand on parle contre Dieu, quand on parle contre les serviteurs de Dieu, quand on méprise les grâces, la nourriture de Dieu, on méprise l'eau de Dieu, c'est-à-dire Christ, on méprise tout cela, eh bien c'est tellement grave le péché que ça produira la mort. Donc Moïse doit faire un serpent d'airain. Il faut savoir que l'airain, c'est le symbole de la justice de Dieu. Et la solution était très simple, et c'est pourquoi le salut c'est simple. Tous peuvent être sauvés, parce que tous pouvaient regarder vers le serpent d'airain. Tous avaient des yeux, tous pouvaient regarder vers le serpent d'airain. Et le texte dit, quiconque regardait vers le serpent d'airain, il conservera la vie. Donc vous voyez que le salut, c'est un cadeau donné aux hommes. Tous regarderont vers le serpent d'airain. Est-ce qu'ils avaient quelque chose à faire? Juste à regarder, juste à obéir, juste à croire? Parce qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Mais nous l'avons dit, l'airain, c'est bien le symbole de la justice divine. Il fallait que la justice soit accomplie. Il y a eu un péché, il y a eu une sanction. Pourquoi Jésus reprend-il ce passage? On a dit tout à l'heure, dans son explication à Nicodème, il parle de la nouvelle naissance, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, donc nous trouvons ce serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Nous comprenons que ce serpent d'airain, c'est une image de Christ, déjà dans l'Ancien Testament, que tous les hommes ont été mordus par un serpent invisible, qui est le serpent du péché, et que tous ont donc inoculé un venin qui les conduit à la mort, tous, nous y compris. Mais grâce au serpent d'airain, quiconque regarde avec foi vers Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, eh bien l'effet du venin est anéanti. C'est ça la foi dans l'œuvre de la croix. Il y a une seule condition, quand Jésus dit « il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé », c'est quiconque regardera vers Jésus-Christ élevé sur la croix, mais avec foi et en lui, est la vie éternelle. On voit bien que le venin du péché n'aboutira pas parce que nous croyons en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais c'est la condition de la foi dans le sacrifice de Jésus. Alors c'est une image un peu audacieuse, un peu étonnante, parce que partout dans la Bible, en fait, à part à cet endroit exceptionnel, mais quand vous voyez parler du serpent partout dans la Bible, c'est une image du malin, ou du diable, ou du mal, partout. Le serpent, c'est celui en Éden, vous savez, le serpent qui séduit. Le serpent, on le retrouve dans l'Apocalypse, le serpent ancien, c'est le diable. Et pourtant, là, Dieu dit à Moïse, mais prends l'image d'un serpent d'airain. Mais remarquez que c'est un serpent d'airain. C'est pour ça que j'ai dit la symbolique de l'airain. L'airain, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas un serpent ordinaire. C'est un serpent d'airain, c'est-à-dire c'est un serpent qui va manifester la justice de Dieu. Et à la croix, si vous regardez bien, le péché a été sanctionné et la justice de Dieu a été manifestée. Donc la croix, c'est vraiment le serpent d'airain. Le serpent d'airain avec la justice de Dieu manifestée, c'est pour ça que nous sommes graciés. On va prier quelques instants, on a vu combien le serpent d'airain a été un objet de bénédiction dans cette époque reculée, qu'il a apporté la délivrance à des multitudes, que Jésus l'a repris comme une image du salut. Mais vous savez, même les plus grandes bénédictions comme le serpent d'airain, on peut dire que c'est une grande bénédiction, ça peut devenir un piège. Je voulais terminer avec un dernier verset, c'est 2 Rois 18:4. Parce que le serpent, on le retrouve ici, du temps d'Ézéchias, roi de Juda, il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Pourquoi il l'a mis en pièces ? Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Le serpent d'airain, par la suite, est devenu un objet d'idolâtrie. C'est triste quand même de voir que c'était un objet de bénédiction qui a apporté le salut du peuple et, à cause de la religion des hommes, est devenu un objet d'idolâtrie. Eh bien, frères et sœurs, il peut devenir la même chose de la croix. C'est-à-dire que la croix est un objet de bénédiction qui apporte le salut du monde, mais qui, à cause de la religion des hommes, peut devenir un objet d'idolâtrie, et on le voit dans la religion. Il y a des croix, il y a des crucifix, il y a des gens qui se prosternent devant, il y a des gens qui font brûler des bougies devant, etc. Et tout cela, c'est de la, on peut dire, de l'idolâtrie déguisée. On l'appelait Nehushtan. Eh bien, ce roi, malgré la valeur du serpent d'airain, qui était vraiment exceptionnel, il a préféré le détruire pour que les gens s'attachent à Dieu et non pas à un objet. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. On ne doit pas s'attacher à un objet, quand bien même une croix, et quand bien même on trouverait là un morceau de la croix où Jésus a été crucifié. Vous savez que ça s'appelle des reliques. Il y a des reliques partout, dans toutes sortes de lieux de culte, et on cherche des objets, un morceau de la croix, un clou, une épine de la couronne de Jésus, et tout cela, ça devient des objets d'idolâtrie. Alors que c'était bon. Bien sûr, la croix, c'était glorieux, mais finalement, pour nous, ça n'est qu'un morceau de bois. La réalité de la croix, c'est quoi ? C'est pas le bois en lui-même. C'est Jésus qui s'est offert sur la croix. Vous voyez la différence ? C'est spirituel, en fait. Et si on n'est pas spirituel, si on devient charnel, comme ici, le peuple d'Israël a fait de cet objet un objet d'idolâtrie, le serpent d'airain, si on devient religieux et qu'on prend la croix comme un objet de superstition où il nous faut une croix, par exemple, pour nous protéger, où on va avoir des crucifix pour peut-être se protéger du mauvais sort, vous voyez, eh bien, on dévie du sens originel de la croix. La croix, c'est une réelle bénédiction, mais ce n'est pas une superstition. Et gardons cette vie de l'esprit pour être renouvelés dans la foi. Merci encore pour ta parole, pour cet exemple extraordinaire où nous voyons combien ce serpent d'airain a été un objet de bénédiction pour le peuple, pour amener le salut, pour amener la guérison, pour amener la vie, là où la mort régnait, là où le péché faisait une œuvre de destruction. Et combien nous voyons que c'est une belle image qui parle de notre Sauveur qui est mort à la croix pour pardonner les péchés de tous ces gens qui sont piqués par le serpent du péché, le venin du péché qui fait son œuvre. Et nous croyons encore aujourd'hui que quiconque regarde vers Christ avec foi et repentance est instantanément pardonné, libéré du poids du péché, parce que ce serpent d'airain nous montre qu'il y a eu le jugement de Dieu. Ce serpent d'airain nous montre que l'airain qui symbolise la justice de Dieu nous montre que Jésus a porté nos péchés et nous a justifiés devant Dieu. Alors Seigneur, merci encore pour ta parole. Nous voulons la vivre d'une manière spirituelle et non pas charnelle. Et nous ne voulons pas nous attacher aux choses matérielles, mais nous voulons nous attacher aux choses d'en haut, aux choses de ton royaume, aux choses de ton œuvre. Ouvre-nous encore les yeux, Seigneur. Ouvre notre esprit, notre intelligence pour vivre dans la foi et nous attendre encore au miracle. Et nous te prions pour ce que nous avons vécu dans la foi, lorsque nous-mêmes nous avons regardé à Christ crucifié, que le plus grand nombre encore puisse regarder vers Jésus, qui est toujours élevé, comme Jésus l'a dit. Il faudra que le Fils de l'homme soit élevé, qui est toujours actif pour sauver, qui est toujours en action pour le salut du plus grand nombre. Eh bien, nous voulons avoir ce regard de foi vers Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui a lavé nos péchés, Jésus-Christ qui nous sauve. Merci Seigneur de le faire encore pour d'autres, pour tous ces bien-aimés qui viendront semaine après semaine pour qu'ils découvrent le chemin du salut dans le nom de Jésus. Amen.